où on a considéré que le genre n'est que construction. Donc si on opère, si on normalise à la naissance, très proche de la naissance, en tout cas avant 2 ans, un enfant, il va se conformer au genre d'élevage. Mais pour ce faire, on va demander aux parents, on va imposer aux parents le silence absolu sur les modifications qui ont été faites à l'enfant, et on va leur assurer que l'enfant, s'il est élevé en fille, sera une fille, s'il est élevé en garçon, sera un garçon. Les critères de choix pour savoir si on fait une fille ou si on fait un garçon sont dès le départ très très bien théorisés et très clairs. C'est, on prend 1 centimètre, on mesure ce qui dépasse. Si on est en capacité d'en faire un pénis avec lequel la personne pourra uriner debout et avoir un coït hétérosexuel, on en fait un garçon. Sinon, on fait un trou, on en fait une fille. C'est toujours là-dessus que l'on se base, encore aujourd'hui, notamment aux États-Unis et en France. À aucun moment, les médecins se sont posé la question de savoir si on pouvait vivre une vie épanouie et une vie sexuelle épanouie avec des organes génitaux différents. La difficulté, c'est que ces opérations faites dans la petite enfance ont des résultats particulièrement médiocres, pour ne pas dire catastrophiques. On retire les organes du plaisir, soit le pseudo-clitoris, soit le pseudo-gland, on fait un trou, et ce trou-là, va, pour ne pas se refermer, va devoir être dilaté par les parents au moyen de la gode pendant toute l'enfance et l'adolescence de la fausse jeune fille. Ce qui veut dire qu'il y a obligation de la part de la médecine auprès des parents de violer leurs enfants dans le cadre d'un inceste qui n'est absolument pas symbolique. À la puberté provoquée pour cette fausse demoiselle, si cette fille veut continuer à avoir un pseudo-vagin sans plaisir, elle devra être réopérée, puisque bien évidemment, le vagin n'a pas grandi, même si on l'a dilaté tout le temps, n'a pas grandi. Donc on va refaire une opération, mais avec un matériel détérioré, puisqu'il aura, c'est ce que les médecins appellent, cartonné, notamment par les dilatations, et qu'on aura retiré tout l'énervement et tous les organes de plaisir. Elle devra, après, à vie, s'auto-violer avec l'artefact du pénis qu'on lui a retiré, sans jamais qu'on lui ait dit qu'on lui avait retiré un pénis. Ça, c'est très très important. Il faut voir qu'au-delà de ça, alors que nous vivons très très bien avec nos organes, qui ne sont pas des organes malades pour lesquels il n'y a absolument aucune raison, c'est le seul cas de la médecine où on fait une urgence médicale, quelque chose qui n'est absolument pas médical, parce que nos organes sont fonctionnels, tant pour uriner que pour avoir des rapports sexuels. Ils sont simplement différents dans la forme. C'est vraiment une donnée, puisqu'on est encore aujourd'hui en France sur cette donnée-là. On opère pour le bien-être des parents, sous le prétexte du bien-être des parents. Bon, ça amène aussi des complications médicales, puisque la chirurgie urogénitale n'est pas au point. Ça amène des gros problèmes. Ça peut être des problèmes d'incontinence, mais ça peut être des problèmes beaucoup, beaucoup plus graves. Tout à fait. Tous les cas de figure sont possibles. Tout à fait. Voilà, tous les cas de figure sont absolument possibles. Tu peux avoir de la personne qui n'a absolument aucune gonade et qui n'a jamais eu aucune sécrétion hormonale, puisqu'il n'a pas de gonade, mais non plus de l'hypothalamus et non plus des surrénales, parce que quand même, il ne faut pas oublier que ce ne sont pas seulement les gonades qui produisent des hormones dites sexuelles, c'est un certain nombre de parties, dont les surrénales et l'hypothalamus, jusqu'à une personne qui a complètement l'ensemble des organes de reproduction du mâle et de la femelle. Et à l'intérieur de ça, toutes les variations sont absolument possibles et imaginables. Ça, c'est très important parce que c'est systématiquement lié dans les manuels de médecine. Et très généralement, je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle, mais très, très généralement, les médecins nous disent « Non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. » Parce qu'ils ont appris que ça n'existait pas. Je vais y venir. Ça aurait dû changer en 2003, mais ça n'a pas vraiment changé. Donc, jusqu'à présent, pour que ça marche, selon le paradigme obstinant, il faut que le moins de personnes soient au courant. Et on ne dit pas aux parents, votre enfant est intersexe. On dit, votre enfant est un garçon raté ou une fille ratée, mais nous avons la solution, nous allons faire ce qu'il faut pour. Mais à ce titre-là, il faut que vous ayez confiance et que vous l'élevez dans le sexe dans lequel on a choisi d'élever. Donc, même les parents ne sont pas au courant qu'ils ont un enfant intersexe. Ça, c'est très très important, et ça viendra au paradigme intersexe dont je vous parlerai après. Je termine historique. Ouais. Alors, de 1950 à peu près, plutôt 65 en France, mais 50 pour les États-Unis, et après, jusqu'en 65, c'était pas bien assez en France, en 65, ça y est, la machine est en route. Jusqu'à la loi Kouchner, donc 2003, ce sont les médecins qui choisissent, et qui plus est, je dirais, le médecin. Alors, suivant la personnalité de l'équipe médicale, ça sera l'endocrinologue qui dira « Moi, je vais vous en faire un garçon, moi, je vais vous en faire une fille », ou la personnalité du chirurgien qui dira « Moi, je suis en capacité de fabriquer un vrai garçon ou de fabriquer une vraie fille ». Donc, il y a des enjeux de pouvoir très, très importants là-dedans. On a une thèse qui a été faite par une étudiante brésilienne là-dessus, sur le choix du sexe. Mais de toute façon, c'est l'équipe médicale qui choisit.
Est-ce que les parents peuvent dire non, je ne veux pas?
Mais ils ne peuvent pas dire non, parce qu'on ne leur a pas dit. On leur a dit, votre enfant est un garçon raté, c'est pas grave, on va réparer, on va vous en faire un vrai garçon. Ou votre enfant est une fille ratée, c'est pas grave, on va la réparer, on va en faire une fille. Non, alors, j'ai très rarement rencontré en France des parents qui avaient été en capacité de s'opposer. Parce que le principe est particulièrement bien rodé. Ton enfant naît à la naissance, tu veux savoir immédiatement ce que c'est, et tu as la tête ébahie ou horrifiée de l'accoucheur qui te dit attendez, il n'y a pas de problème, on se retire l'enfant, on le raffie, on le donne jamais aux parents, jamais, et on revient voir les parents en leur disant, l'ensemble de l'équipe médicale vient voir les parents, donc une dizaine de personnes en blouse blanche viennent voir les parents à qui on vient de raffier l'enfant, en refusant de leur dire que c'est un garçon ou une fille, en leur disant c'est un garçon raté, c'est une fille ratée, mais on va régler le problème. Donc les parents ne sont pas en capacité de s'opposer à ça. Non, c'est jamais noté. J'ai même un copain où il y a marqué sexe RAS. Rien à signaler. Il a été opéré lors de sa naissance.
Bonjour, on va dire aux parents,
écoutez, il y a du problème, on va le réparer. Alors, je vais te signer un historique, on n'en est pas loin, on est à 2003, donc on va arriver, et puis après, je pense que parce que je vais donner des éléments de réponse. Donc, il y a la loi sur le consentement éclairé du malade, d'ailleurs, la loi Kouchner, qui pose quand même un problème, soit dit en passant, parce que le malade, en l'occurrence, il n'est pas malade, puisque c'est pas une maladie, et en plus, c'est un nourrisson. Donc, le consentement, on va le donner aux parents. Les médecins français ont vraiment été perturbés par ça, mais aussi, et c'est ce qui a commencé à faire changer les choses, par deux autres éléments. Le premier élément, c'est tout le travail qu'ont fait les organisations intersexes nord-américaines. L'immense majorité des médecins font leurs études et publient leurs études en anglais et font leurs études avec les équipes nord-américaines, et ils se sont dit, oulala, un jour ou l'autre, les intersexes français vont nous tomber sur la gueule, donc faut qu'on fasse gaffe. L'autre aspect qui les a fait bouger, c'est un aspect purement économique, et c'est à ce titre-là, à mon sens, que la mutilation des intersexes va arrêter, c'est que ils ont peur des procès, et donc ils sont dans l'obligation de provisionner auprès des procès, et les primes d'assurance, notamment en neurologie pédiatrique, sont absolument exponentielles. Donc ils ont très très peur aussi de ça. Donc ils se sont retrouvés avec la loi Kouchner sur le coin du nez, ils ont essayé de se débrouiller avec, et plutôt que de véritablement faire de l'information auprès des parents, ils ont vendu la même soupe, donc le paradigme aussi, tout en transformant ce que j'ai appelé le paradigme des enfants malades de l'équipe de l'hôpital des enfants malades qui a théorisé cette nouvelle technique, c'est-à-dire on reprend Hopkins, mais on culpabilise les parents en leur disant vous pouvez choisir le sexe de votre enfant. Nous, on a des solutions, on sait que c'est un garçon, c'est une fille, il n'est pas fini, mais vous, si vous voulez, vous ne pouvez pas nous suivre, c'est à vous de déclarer le sexe de votre enfant. Très souvent, après, ça a été vu à l'échographie, mais aussi plusieurs semaines, voire plusieurs mois, après que l'enfant soit né et ait été déclaré dans un sexe donné. Mais jamais les médecins vont aller au bout du consentement éclairé du malade en disant « Vous pouvez ne pas choisir, votre enfant n'est pas malade, il est juste une variation naturelle, et à ce titre-là, on peut vous accompagner pour l'élever, si c'est pas mis, tel qu'il est. » Donc, au jour d'aujourd'hui, on en est là. Plusieurs fois par jour, il y a des enfants en France qui sont assignés arbitrairement avec le consentement extorqué auprès des parents pour valider ce type de mutilation. Il y a les mutilations chirurgicales dont je vous ai parlé, mais il y a aussi les mutilations hormonales où on balance les hormones masculines ou féminines à haute dose sur des nouveau-nés et tout au cours de l'enfance. L'autre chose sur les échographies, c'est que bien évidemment, donc vous voyez que notre histoire, notre visibilité commence il y a 140 ans avec Herculine Barbin, disparaît jusque dans les années 70, puis réapparaît et se termine là, puisque dans tous les examens en ténato, on peut déterminer si l'enfant va être normal, et dans ce cas-là, systématiquement, on propose aux parents l'avortement thérapeutique. Donc, on a toujours autant d'enfants intersexes qui naissent, parce que pour des raisons extérieures liées à l'environnement et à la façon dont on vit aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants intersexes qui naissent, mais en fait, on en fait disparaître aussi un très grand nombre.
Le premier une naturalisation des sexualités est aussi connue. Alors on va parler de son genre à la catégorie des légumes. C'est la première question. La deuxième question est sur...
Il y a déjà pas entendu la catégorie
Le genre à la catégorie des légumes. Comme une construction sociale, historique, socialisée, et ça extrême des sexualités. Deuxième question, c'est par rapport à... aux chiffres, aux pourcentages que ça donne. Entre 10 et 15% pour un pays comme la France, ça serait en contact 6 et 10 millions de personnes qui seraient intersexes.
Oui.
Et donc ça fait un certain nombre de personnes, vraiment je m'en doutais, mais ça fait tout le monde presque, auquel on aurait demandé d'accepter une mutilation. Moi je trouve très étonnant qu'on ait entendu parler de ce fait-là, ça
serait une autre personne. On n'a jamais demandé et on ne demande toujours pas en France aux parents d'accepter des mutilations. Quand un enfant naît avec une malformation cardiaque, on dit aux parents, on va réparer votre enfant, on va lui faire une opération et son cœur fonctionnera bien. On procède exactement de la même façon vis-à-vis des parents intersexes, en oubliant de dire qu'il n'y a pas de raison médicale de le faire. Donc les parents n'ont absolument pas conscience qu'ils ont été dupés et qu'on les a obligés à accepter des mutilations. et on leur a demandé en plus, pour que ça fonctionne, de garder un silence absolu et permanent sur ces opérations. On demande aux parents, quand l'opération se fait quelques mois après la naissance, voire quelques années, de brûler l'ensemble des affaires de l'enfant pour être sûr, et les photographies de famille, pour être sûr qu'il n'y ait pas de traces.
Voire oblige les parents à déménager. On oblige les parents à déménager, ne jamais réveiller aux amis, à leurs parents, etc. Les autres enfants se rendent compte de même des choses. C'est terminé. Pour répondre à ta première question, justement, l'hétérosexualité ou l'intersexe ou l'homosexualité, le fait d'être lesbien, me fait des gestes comme homme, mais surtout, et rien maintenant. Le genre binaire n'existe pas. On en est la preuve. La toute la société est fondée sur le genre binaire. Donc pourquoi on ne parle pas de nous? C'est parce que si on parle de nous, on s'est pressé de trouver la négation de ce genre binaire. Pour répondre à ta deuxième question, tous les intersexes ne sont pas opérés à nous. Par exemple, en ce qui concerne, j'ai passé 3 mois en couveuse, donc au bout de 3 mois, j'avais la liste, on va dire, qui était acceptée par rapport à la demande qu'on tira les soubides pour être un garçon. C'est le garçon que ça connaît. À terme, à tous les coups, il y avait le droit. Un bien, un mal, je ne sais pas. On est incapable. On est la négation de la société, on est la négation biologique de ce qu'on peut nous imposer. On est pas fille, on n'est pas garçon, on est autre chose. Mais on est une personne. On est tout. Sans être humain. Et c'est là où c'est difficile. Quand on se dit qu'il fallait de ça pour que je me passe un coup d'épuche aiguë pour me mettre, pour conformer ma liste antipolique, et que maintenant je fasse un viol physiologique pendant 10 ans, je repasse 3 fois sur 10 milliards après pour avoir des rapports soit dits normaux, hétéronormés à la puberté. On est contre ça. On veut qu'on nous foute la paix. On est viable. On a des cabots. Oui, là, on est physiologiquement bien. C'est tout. C'est ça, on va répondre à cette
question. C'est le dernier.
Attends. Merci pour répondre à la question de la sondage. En fait, c'est que tu as une partie des intersexes où il y a besoin à la naissance, une besoin après la naissance, et en fait, une grosse partie de personnes intersexes. Ou c'est pas visible, ou on peut voir la liberté ou la chaleur. Donc ça explique le décalage en fait entre le nombre de personnes où il va y avoir des interventions médicales à la naissance des enfants pour la différence donc, entre le chiffre. Ça explique le nombre de personnes.
Sur un enfant au sodomie est systématiquement normalisé par les opérations et par l'hormonothérapie. C'est-à-dire normalisé, stérilisé, puis en hormonothérapie successive toute la vie. Au-delà de ça, il y a un certain nombre d'enfants qui sont normalisés, mais qui n'entrent pas dans ces statistiques, puisqu'ils sont normalisés pour leur donner un beau pénis ou un beau vagin et un beau clitoris, mais pour lesquels les médecins ne les rentrent pas dans les statistiques des intersexes. C'est pour ça qu'on n'arrivera jamais à se mettre d'accord avec le corps médical sur le nombre d'intersexes et le nombre d'intersexes normalisés. Je sais plus ce qu'il y avait demandé.
Garder le silence sur la préparation chirurgicale.
qui a lieu. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre de l'enfant quand on apporte la vie de la avec les modifications,
Mais le problème se pose également avec le garçon. Parce qu'avec le garçon, les soins durent moins longtemps, mais enfin, c'est quand même des soins douloureux, mais aussi, il y aura tout au long de la vie des opérations de normalisation, puisque le corps évolue, et il ne va jamais évoluer dans le sens dans lequel on veut, et puis il y aura l'hormonothérapie substitutive, qui est une mutilation d'une force inouïe. Mais dans ce cas-là, on va apprendre aux parents à mentir en leur disant, ben, dites-lui qu'il doit prendre ses médicaments et qu'il est malade. Non, même pas, on justifie pas. Dites-lui qu'il a besoin de prendre ses médicaments. Point barre. J'ai un peu pas de bois. Et alors, toutes les formes d'intersexualité ne sont pas liées à la génétique. Et fort heureusement, on ne peut pas déclarer le sexe et le genre d'une personne, contrairement à ce qu'on nous raconte, grâce aux chromosomes X et Y. Ceci dit, tu as des XXX, des XXY, des YYX, tu as des XXXXY, tu as des X0, tout à partir du moment où c'est pas létal, c'est-à-dire où la grossesse va jusqu'au bout, tu as toutes les variations génétiques possibles et inimaginables. Qui ne correspond pas à ce qui aurait dû être. Enfin, tu as l'incapacité de fœtus à comprendre le discours hormonal de la mère. Soit tu as, et notre génération, on est très souvent dans ce cas-là, des variations qui ont été créées par des prises de médicaments de la maman pendant la grossesse. Mais tu as également, en ce moment on le voit, énormément d'enfants intersexes qui naissent dans le Beaujolais, parce qu'on utilise des pesticides spécifiques. Tu as le Roundup cette année, c'est-à-dire le problème est consentant, ce Roundup, où on a prouvé qu'à une dose de 1 pour 1000 par rapport à la dose recommandée, si une femme, pendant la 5e et la 7e semaine de grossesse, est en contact avec le Roundup, elle va faire un enfant intersexe. Donc, si tu as peur, et puis tu as le hasard qui fait qu'à un moment donné, le corps, il ne va pas soit d'un côté, soit de l'autre, et il reste au milieu.
Je voulais
demander, est-ce que les parents sont suivis psychologiquement? Jamais. Mais même les enfants ne sont pas suivis. Le système de santé français fait que à 16 ans, ils doivent rentrer dans des protocoles d'adultes. Ils ne vont pas nécessairement dans des protocoles d'adultes. Et qu'aucune équipe médicale française n'est capable de nous donner une étude sur le suivi à long terme d'enfants intersexes.
Par exemple,
juste avant de venir aux USA, une maman lui a retiré son bébé le jour de la naissance, et après deux mois, les médecins sont aperçus, parce qu'il y avait des problèmes de santé, et au bout de deux mois, ils sont aperçus qu'il était intersexe.
Mais je veux dire, quand ils mettent l'enfant sur le ventre de la mère...
Ils ne mettent pas l'enfant intersexe sur le ventre de la mère, jamais. Jamais. On le ravit à la mère, il y a un rat.
Tous ses parents, t'as tout de suite, il y a un problème, ça se maintient, mais t'as tout de suite, il y a un
tout à fait.
Et après, quand on leur donne cette possibilité, notamment aux parents, je trouve ça c'est dur. Quand on dit aux parents de choisir, etc., à quand tu vas les parents dans leur.
Jamais.
C'est un sacré truc de choisir, quand même, de dire, bon, bah, ça sera peut-être un garçon, c'est une petite fille,
c'est pas un choix. C'est une injonction thérapeutique.
Oui, mais bon, en tant que parent, c'est clair qu'on peut quand même en poser certainement des questions. Oui. Même si on vous dit, c'est un choix, c'est comme ça, en tant que parent, vous devez quand même bien vous demander, bah, je pense que j'aurais son cœur, disant, est-ce que leur choix était vraiment le bon? Est-ce qu'ils vont pas influencer pour quelconque raison?
Ah non, la majorité des parents, non. Non. Il y a une foi religieuse entre la médecine qui fait que les parents acceptent.
C'est ça, parce que. On va retirer, par exemple, à mes parents, on m'a retiré la naissance
La loi est assez perverse, puisque pour obtenir son dossier médical, il faut en faire la demande, et on l'obtient. Mais on ne peut obtenir, si on n'est pas médecin, que l'étage dactylographié. Or, ça, les médecins le savent très bien, et ils ne font que des notes manuscrites quand ça leur pose problème, mais c'est pas comme l'intersexualité, hein. C'est, voilà, il y a ce problème-là. Il y a aussi l'autre problème, c'est que notre génération, quand ils ont vu les problèmes venir avec les problèmes nord-américains, ils ont fait disparaître l'ensemble des dossiers. Donc, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, un intersexe, il y a entre 30 et 45 ans, puisque ce n'est pas gardé plus longtemps, s'il demande son dossier médical, on répondra, dossier médical absent, et c'est tout. Oui, systématiquement. Toutes les contentions ont été gagnées, soit par les parents, soit par les enfants. La difficulté, c'est qu'aussi il y a énormément de contentieux qui ont été gagnés des enfants vis-à-vis de leurs parents.
Encore des cas d'intersexualité
chez les animaux. Ah bien sûr, bien sûr, oui, mais alors ça c'est n'importe quel, d'ailleurs si tu n'as pas d'intersexualité sur n'importe quel moteur de recherche, tu auras le gros problème qu'on rencontre aujourd'hui avec l'élevage caprin, où on a énormément de boucs qui sont en fait des chèvres, mais qui sont un phénotype de bouc avec un génotype de chèvre, ce qui pose un vrai problème dans l'élevage caprin, mais tu as aussi 70% des espèces de grenouilles qui sont en voie de disparition à l'heure actuelle, parce qu'avec tous les œstrogènes qui se trouvent dans la nature, les mâles sont féminisés, et donc en fait on a plein de femelles, mais qui ne sont pas en capacité de se reproduire, et quelques mâles qui ne vont pas trouver des vraies femelles. Tu as le problème des ours blancs sur la banquise, hein, où l'immense majorité des ours blancs mâles sont en fait de l'hermaphrodite. Tu as le problème de tous les crocodiliens, crocodiles, alligators, etc., qui sont très sensibles aux imprégnations chimiques qui se retrouvent chez de l'hermaphrodite. Et tu as aussi une nouvelle chose qui là est volontairement provoquée, les élevages industriels de poissons, c'est-à-dire saumon, dorade, bar, etc., où puisque une femelle est improductive, puisqu'elle est moins grande qu'un mâle, et en plus, elle a des espaces vides pour avoir les œufs, on va balancer à l'alvinage de la testostérone pour en faire des super mâles. Donc à chaque fois que tu manges du saumon fumé d'élevage, en fait, tu manges un saumon transsexualisé avec toute cette testostérone qui se retrouve dans les eaux. On a également maintenant le problème très récemment, là, ça apparaît ces dernières semaines dans les recherches, où les associations de protection des animaux sont allées auprès de l'Europe pour demander l'interdiction de la castration du cochon, parce que tu sais que le cochon est castré, sinon il n'est pas mangeable, et que cette castration, les organes génitaux du petit cochon font interne, donc on ouvre avec un scalpel, on retire, on met un désinfectant et on remet le petit sous une lampe. Parce que endormir le cochon, ça lui fait aussi mal et ça coûte encore plus cher, et le recoudre, ça prend du temps. Donc les associations de protection des animaux sont allées auprès de l'Europe, et la solution trouvée, c'est de fabriquer des verras transsexuels en leur balançant des oestrogènes, comme ça on les casse chimiquement, ils prennent de la graisse, et donc on va avoir arrivé des générations de porcs qui vont être bourrés aux hormones, sans qu'on dise que ce soit la fameuse hormone, puisque dans la législation européenne, il est interdit de donner des hormones à la viande d'élevage. Sauf que là, comme on le fait en une fois à la naissance, on considère que ces hormones-là n'auront pas d'incidence sur la santé sans en avoir fait d'études. C'est une enquête qu'on doit faire, qui prend des années. ou à un moment donné de ta vie, tu dis il y a quelque chose qui ne va pas et tu cherches à te définir. Donc, c'est ne pas dire ce qu'on ne nous a pas dit que nous sommes. Donc, au départ, si tu arrives à survivre, hein, parce qu'on est 30% à se foutre en l'air à l'adolescence, si tu arrives à survivre, tu vas te chercher une identité, et c'est là qu'on retrouve beaucoup de gens dans les communautés LGBT qui vont chercher leur passage, un passage pour exister, qui vont pouvoir y trouver leur place, mais qui vont souvent ne pas y trouver leur place. Et à ce moment-là, si tu vas te définir une personnalité qui ne sera pas la tienne, mais qui te permet de t'étayer et de vivre. Ensuite, si tu as la chance de rencontrer quelqu'un ou de rencontrer le mot qui te dit « tu es ça », tu vas pouvoir commencer ton enquête. Et c'est une enquête très difficile, puisque en face de toi, tu n'auras que des gens qui, pour ton bien, ne voudront pas dire qui tu es. Et toi, tu demanderas « dites-moi qui je suis ». Tout en pensant qu'eux savent, alors qu'eux-mêmes ne savent pas. C'est ça la complexité, et c'est toute l'importance de l'émergence de notre parole, de dire on est là, on existe, parce que je ne connais pas d'intersexe qui, à un moment donné, ne se soit pas posé des questions en disant « moi je suis PD, oui mais ça ne va pas. Moi je suis green, butch, oui mais ça ne va pas. Moi je suis trans, oui mais ça ne va pas. » Ça commence toujours comme ça. « Je suis trans, je suis pute, ouais, mais il y a quelque chose. Pourquoi je me dis ça alors que, ok, ça me permet de survivre, mais c'est pas moi malgré tout, mais je ne sais pas ce que je suis. » Ensuite, donc après, une fois qu'on est arrivé à comprendre qui nous sommes, il faut arriver à pouvoir le verbaliser, ce qui est quand même très dur avec toute la stigmatisation qu'il y a derrière. Hein. L'hermaphrodite, c'est soit le mythe de l'hermaphrodite, soit la tératologie, le monstre. Là, t'as pas de salut, hein. c'est nécessairement forcément la stigmatisation. Et si tu arrives à le verbaliser, ben après c'est tout un travail, c'est très important d'aller interroger les gens qui t'ont fait naître, si t'es pas trop vieux, d'aller interroger les médecins, d'essayer d'arracher et de décrypter ton dossier médical, parce que ça sera jamais marqué dedans. Mais en travaillant dessus, tu pourras trouver des éléments qui permettent de te dire. Et puis, il y a toutes les cicatrices qui, à un moment donné, il faut aller demander compte. Pourquoi j'ai cette cicatrice à cet endroit? Pourquoi j'ai celle-là? Pourquoi maman, j'ai une papa, j'ai été hospitalisé à cette date-là? Pourquoi il n'y a pas de photo de moi enfant? Pourquoi, etc., etc.
Oui, alors pleinement, oui, mais une fois de plus,
nous reconnaissons imperfecte toute personne qui se dit imperfecte. On ne va pas aller demander le dossier médical ou quoi que ce soit. Mais bien évidemment, oui, ça c'est une grande majorité des militants d'imperfecte de l'OI, sont des gens qui ont un patrimoine génétique d'un genre, une assignation sociale d'un genre et un phénotype dû à la production d'hormones de l'autre genre. C'est la majorité, oui.
Je voudrais demander est-ce qu'il est possible, à une certaine époque, dans certaines conditions, qu'on n'ait pas demandé aux parents de choisir. C'est-à-dire qu'on est enlevé l'enfant, on est pensé les médecins parce qu'il manquait de garçons, et qu'on va se transformer en garçon, en laissant attendre, disons, leur premier malaise, vous ne pouvez pas le voir, et qu'en fait, on est fait des opérations sans le consentement des parents.
Ah ben oui, c'est mon cas, mais c'est aussi le cas d'un enfant qui a un an pour lequel sa mère, oh, voilà, c'est. Sa mère vient de m'appeler, oui, bien sûr, ça se fait encore, ça se pratique encore, oui. Alors, c'est pas nécessairement des opérations, ça peut être des opérations très lourdes, hein. C'est l'ablation d'un pénis pour en faire un pseudo-clitoris, hein. Mais ça peut être aussi des injections massives à la naissance d'hormones pour en faire un vrai garçon ou une vraie fille. Ah, les parents ne leur demandent pas, ils le savent pas. Bien sûr, oui.
Justement, mais au niveau des fameuses semaines, et le médecin lui a dit, bah, si c'est une fille, elle aura du poil au pas. J'ai tellement peu de place que j'ai dû mettre 3 jours.
Hein. Alors, pour les parents, ça devrait être encore quelque chose. Pour les premières, c'est pas dans le bon sens. D'apprendre un jour de découvrir quand même quelque chose et qu'on n'était pas au courant, et puis on découvre presque en même temps que l'enfant, finalement, qu'il y a quelque chose qui est
différent. C'est du biochimie et les parents sont autant victimes que les enfants, la famille, les ascendants, les frères et sœurs, les collatéraux sont tous victimes de ça. Ça, c'est très important. Mais il faut se dire aussi que dans la majorité des cas, les parents ne le seront jamais. Parce que si l'imperfect n'arrive pas à savoir qui il ou elle est et comment il est arrivé là, personne n'ira dire aux parents ce qui s'est passé. Et c'est lui qui ira faire une espèce de coming out qui n'en est pas un, puisqu'il y aura nécessairement négation de la part des parents, puisqu'ils lui diront ce n'est pas vrai, ils diront c'est pas vrai à juste titre, puisque pour eux ce n'est effectivement pas vrai. On a rectifié son acte de naissance et on lui a donné accès dans le protocole à la féminisation. Donc la Cour européenne des droits de l'homme va nous dire, mais attendez, qu'est-ce que vous réclamez? Vous faites appel à la Cour européenne des droits de l'homme alors que l'ensemble des juridictions françaises nous ont donné raison. Oui, maintenant vous avez Madame Machin et c'est marqué sur votre carte d'identité. Oui. Le combat de Loïc, c'est un combat contre la démédicalisation de l'intersexualité. Donc on va pas aller se battre sur la législation médicale, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que on est considéré comme transsexuel, donc on ne peut pas ester auprès de la HAGE, puisque la HAGE considère que la transsexualité ne peut pas être discriminée, puisque c'est une maladie mentale. Un transsexuel ne peut pas ester auprès de la HAGE. Ça, c'est le grand merci qu'on doit dire aux gays. Ça, c'est très très clair. Les gays ont tout fait en faisant reconnaître l'homophobie plutôt que la discrimination de genre auprès de la HAGE, discrimination de genre qui existe depuis 1950 dans la Convention de Genève, pour en disant il faut simplifier le discours, sinon les gens ne comprendront pas. On va parler d'homophobie et non de discrimination de genre. Ils ont fait reconnaître l'homophobie auprès de la HAGE, et donc, de facto, la HAGE refuse d'entendre les autres discriminations de genre que sont la transphobie, que sont l'intersexophobie. Ouais. Non, sauf humaine, voilà, je l'avais dit. Non, uniquement sauf humaine, ouais. Oui. Je travaille avec l'hôpital de Lausanne et le centre hospitalier universitaire de Lausanne et l'université de Lausanne, où l'avantage de l'université de Lausanne, c'est que à l'intérieur des sciences humaines, il y a également la biologie, la physique, etc. Donc c'est complètement pluridisciplinaire. Donc il m'arrive de travailler avec des gens, mais c'est dans le cadre de séminaires sur l'intersexualité pluridisciplinaire. Hein. Non, il est hors de question qu'il y ait un autre discours que le discours officiel à l'intérieur du médical ou du biologique. Ça, c'est bien évidemment impossible. Les progrès qu'on a obtenus pour l'Europe, c'est l'arrêt des mutilations en Suisse romande depuis plus d'un an. Et maintenant, l'arrêt de la proposition systématique d'une assignation dans un genre à l'adolescence, puisque au départ, les médecins considéraient qu'il fallait arrêter les mutilations, mais qu'il fallait nécessairement proposer une opération d'assignation dans un genre ou dans l'autre à l'adolescence. On a réussi à leur faire comprendre que si la personne elle-même spontanément n'est pas en demande, c'est des opérations inutiles et que on peut très très bien se vivre avec des organes différents. Donc on a doublement avancé avec la Suisse après plusieurs années de travail. Sur l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Népal, on a obtenu que lors des recensements, il puisse y avoir la case both, autre. Hein? Donc déjà c'est quand même assez important. Sur la France, on commence à être très sollicité par le comité national d'éthique, par les médecins, par les universitaires, par les équipes qui s'occupent d'intersexualité, mais on n'est pas encore entendu. On est soit là pour la résilience, ils ont besoin à un moment donné de poser la problématique de leur pratique, et on est là pour leur servir d'alibi pour pouvoir avancer dans cette résilience, soit on est là pour leur servir de sujet d'étude. En France, on en est encore là.
Il y a que 30% des trans qui témoignent. Et tu disais qu'à un moment donné, j'ai compris qu'à un moment donné, le trans, la personne choisissait d'être un bête en culturel, toujours
qui lui convient. Il disait que dans mon propos sur les 20 à 30%, mais plutôt 30% de trans qui sont en fait des intersexes, j'ai eu la phrase malheureuse, et il a raison de la pointer, de dire ils vont aller vers ce qu'ils auraient toujours dû être. C'est pas ça. C'est vers où ils se sentent le mieux. Hein, c'est important. Mais médicalement et statistiquement, c'est assez facile. Les femmes polycystiques, dans toutes les études, polycystiques, qui ont des cystes ovaires, statistiquement, elles sont hyper surreprésentées dans les études sur les FTM. Hein. Donc, d'ores et déjà, ce ne sont pas des femelles biologiques. Elles ont déjà quelque chose qui fait qu'elles sécrètent de la testostérone et, à partir de ce moment-là, elles sont stériles sans intervention médicale et elles ne se retrouvent pas, puisqu'on les retrouve chez les lesbiennes, puisqu'on les retrouve chez les femmes stériles, puisqu'on les retrouve chez les FTM, elles ne sont pas au départ dans cette catégorie femelle, avec accord de femelle, interfemelle et d'orientation sexuelle et hétérosexuelle. Bien évidemment que la gynécomastie est un élément, la gynécomastie c'est pour pas dire un homme qui a des seins. Donc on dit, on a plein de périphrases comme ça, on dit la gynécomastie, l'ablation des seins chez un homme, on appellera ça une gynécomastie, par contre si c'est une femme, on n'appellera pas ça gynécomastie, alors c'est la même opération pour les mêmes raisons. Il y a un certain nombre d'hommes qui ont des seins, qui sont en capacité d'allaiter, qui ont du lait, qui sont en capacité d'allaiter, et à l'adolescence, il y a plein de garçons qui ont des seins et qui ont des démontées de lait. Depuis 6-7 ans, on ne rembourse même plus les médicaments qui permettent de réduire ces développements mammaires. Hein. Donc, ça, c'est toujours un indice, je ne dis pas que c'est une raison d'intersexualité, mais c'est toujours un indice comme quoi, à un moment donné, il y a quelque chose dans le corps qui fait que, à un moment donné, pas forcément tout le monde l'a dit, mais il correspondra pas à ça ou elle correspondra pas à ça. Hein? Nous avons aussi dans le cas des aménorrhées, hein, très souvent une femme qui n'a jamais de règles, qui à l'adolescence va consulter, on va lui dire on va régler votre problème, on va vous donner des hormones, etc. etc. Si elle n'a pas de vagin ou elle a un petit vagin, si elle n'a pas d'utérus, si elle n'a pas de gonade, on ne va pas lui dire vous n'êtes pas une femme. On va lui dire il y a un problème, vous êtes une femme stérile. Et on va vous aider dans cette démarche-là. Mais non, la psychanalyse en France, c'est pas la même chose d'ailleurs, mais la psychanalyse en France reste campée bec et ongle sur ses dogmes, et bien évidemment, on échappe au complexe de Bip, on échappe au complexe de castration, etc. Toute cette chose hyper normative qui a été construite dans un monde où il y avait des mâles et des femelles, qu'on doit parfois se prendre pour des hommes ou des femmes ou les deux à la fois, mais en fait, qui reste quand même fondamentalement basé sur le pénis et sur le vagin, évidemment, on y échappe et on met en échec la psychanalyse, ce qui fait qu'on a un rejet très, très violent des psychanalystes et des philosophes par rapport à notre thématique.
Mais il y a une part d'une expérience d'autres cultures que notre culture occidentale, où les personnes intersexes ont été réfugiées.
Bien sûr. Dans les cultures non occidentales d'aujourd'hui, il y a plein de pays où être intersexe n'est pas nécessairement un problème. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais il n'est pas nécessairement un problème. Et où, au contraire, un grand nombre ont des fonctions religieuses importantes. Je pense qu'au tout spirit, c'est les Amérindiens. On a énormément d'Amérindiens à l'OI, puisque pour eux, ça a toujours été inclus dans la culture, et qu'ils ont en plus un rôle important de gestion spirituelle et de gestion de la communauté. On voit la même chose notamment au Népal, hein, c'est pas par hasard s'ils ont eu des avancées, mais on voit aussi la même chose dans notre Polynésie française, on voit ça en Thaïlande, on voit ça dans plein de cultures, oui, où, ne serait-ce que l'Afrique du Nord, et dans le Coran, l'intersexualité, on en parle, et dans les commentaires du Coran, on en parle très abondamment. Et je suis même fait dire aux médecins qu'il y a beaucoup plus d'intersexes en Afrique du Nord, statistiquement, parce qu'il y avait le gène intersexe en Afrique du Nord, alors que c'est simplement, je ne dis pas que c'est la panacée, hein, je ne dis pas qu'ils ont un rôle génial et que c'est tout bien, mais ils ont un rôle dans leur société, et notamment, ils ne sont certainement pas mutilés.
Alors, existe-t-il une psychologie, je ne sais pas si c'est des intersexes, des psychologies intersexes, s'il y en a, pour trouver la propre personnalité intersexe. Normalement, dans la société, on a des modèles, non? Tu as le prince, tu as la princesse, tu as le politicien, tu as des personnages qui sont des modèles.
Et l'assignation, c'est qu'il est quasi impossible de se construire sans savoir qui nous sommes et sans ayant de référent. On ne croit jamais aux référents qu'on nous donne. C'est une chose, et on est obligé de se construire des stratégies de contournement pour exister. Et on a dit que tu étais un petit garçon, tu acceptes le rôle de petit garçon, mais tu sais d'emblée que ce rôle il est artificiel, mais tu le joues parce que tu n'en as pas d'autre à jouer. Et ça, c'est vraiment une des grandes difficultés, et c'est pour ça qu'il y a un taux de suicide de jeunes intersexes très important, qui est complètement invisibilisé, puisque systématiquement, comme ils sont assez féminins, on les retrouve dans les statistiques de suicide des jeunes gays et homo, ou lesbiennes, mais on ne les retrouvera jamais dans les statistiques de « il s'est suicidé parce qu'il était intersexe » et qu'il ne pouvait pas verbaliser le fait qu'il était intersexe et qu'il n'a aucun référent. Après, une fois que tu as conscience de ton intersexualité, de l'immense majorité des intersexes que je rencontre tout au long de l'année, ça ne pose pas fondamentalement de problème. C'est-à-dire, et on va prendre chez les uns, chez les autres ce qui nous convient, et on va rejeter ce qui ne nous convient pas. La grande difficulté, c'est qu'on ne sait pas, et on sait qu'on pense que les autres savent, et qu'ils ne veulent pas nous dire, alors que les autres ne savent pas non plus. C'est très complexe. Début du XXe siècle, endocrinologue, écrit un bouquin sur l'intersexualité qui est toujours d'actualité, qui vient d'être réédité, et il nous dit 99% des êtres humains sont des intersexes, parce que la définition, c'est un médecin qui utilise les nosographies, les classifications, nous dit 99% des êtres humains ne sont ni mâles, ne sont ni femelles, ils sont intersexes. Qu'est-ce qu'être mâle, qu'est-ce qu'être femelle, qu'est-ce qu'être homme, qu'est-ce qu'être femme, moi je n'en sais rien et je ne peux pas le savoir et je ne suis pas un essentialiste. Mais malgré tout, il y a des critères qui ont été choisis par la justice, par la médecine, qui font qu'on n'entre pas dans ces catégories-là. Il y a un grand nombre de personnes, sans savoir, n'entrent pas dans ces catégories-là. Il y a une étude qui vient d'être faite en Allemagne, dans une clinique d'Allemagne du Nord, une clinique pour les hommes. Qui s'occupe spécifiquement des problèmes d'hommes après 50 ans. Ils ont pris les critères de l'OMS sur ce qu'est un homme, sur ce qu'est une femme, il y a 70% de leurs patients qui ne rentrent pas dans les critères du mâle. Pourtant, ils ont vécu en mâle, parfois en hétérosexuel, parfois en père de famille, parfois en homosexuel, parfois, etc. Donc, le problème, il n'est pas d'opposer essentialistes et les autres. Le problème, c'est qu'est-ce que la définition d'un mâle et d'une femelle, et quelles sont les implications entre l'essentialisme et entre le constructivisme.
Une autre question, si on n'a pas une orientation sexuelle hétérosexuelle, on ne fait pas partie de la classification des femmes et des hommes.
Ah ben non, puisqu'on ne va pas se reproduire, on est mâles et des femelles. Des mâles et des femelles. Ben non, on ne va pas se reproduire. Un mâle, il est là pour donner ses gamètes pour que la femelle se reproduise. C'est la définition biologique. Non, mais c'est pas la mienne, hein. S'il y a toute adéquation, on appellera ça un homme. S'il y a toute adéquation, on appellera ça une femme. Il semble que la lesbienne n'est pas une femme. Voilà, ah mais bien évidemment, puisque notamment en termes d'intersexualité, on va faire de l'enfant intersexe un pseudo-mâle sur sa capacité à pisser debout et à avoir un coït hétérosexuel. C'est la seule raison pour laquelle on va l'assigner en garçon, et tout le reste, on va en faire un trou, parce que c'est plus facile de faire un trou que de faire un mât. C'est la définition des médecins. C'est pas la mienne. Tu peux être un homme que si tu pisses debout et que tu peux pénétrer un vagin. Sinon, tu n'es pas un homme. C'est la définition, mais c'est celle qui est appliquée encore aujourd'hui dans le monde occidental. Oui. Si, il y a un caryotype, parce qu'on a décidé qu'à un moment donné, notamment grâce à l'industrie médicale, je pense que Jaïla va parler beaucoup mieux que moi. Non, génotype et phénotype. Le phénotype, c'est le corps tel que tu le vois. Le génotype, c'est l'ensemble du génome. D'accord. Donc tu as peut-être un génome XX de femme, mais un phénotype masculin. Tu n'en sais rien. Tant que tu n'as pas fait le caryotype, tu n'en sais rien. À un moment donné, dans l'évolution des sciences, parce qu'il fallait absolument, pour continuer à faire fonctionner cette société, trouver une définition de ce qu'était le mâle, et la vie ne suffisait plus, on a dit un mâle c'est XY et une femelle c'est XX. Donc XX tous ceux qui ne sont pas XX ou XY, et on en reste là. Le problème, c'est quand on est face à un enfant intersexe, évidemment on va aller voir son caryotype, mais s'il ne peut pas pisser debout et pénétrer normalement, même s'il est XY, on va en faire une femme, parce que le plus important, c'est qu'il puisse pisser debout et baiser une nana.
Il n'y a pas de question bête. Il est possible pour un homme.
Mais s'il
est possible de justement choisir le sexe mâle,
est-ce
qu'il est possible que la personne puisse avoir des enfants?
Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire être fécond avec la PMA? Ça, c'est déjà une question essentielle. Est-ce que une femme qui prend la pilule et qui décide d'arrêter la pilule pour avoir un enfant, elle a l'enfant de façon naturelle? Bien sûr que non. Elle a été hormonée chimiquement pendant des mois, on lui a créé des fausses règles et après elle arrête. Et bien souvent, d'ailleurs, elle a besoin d'une stimulation ovarienne pour pouvoir tomber enceinte. Donc, dans le monde occidental, déjà, engendrer de façon spontanée, c'est anecdotique, c'est aléatoire. Indépendamment de ça, il y a des générations entières d'intersexes, et la grande majorité des intersexes sont naturellement, sans aucune aide extérieure, fertile. Moi, j'ai une amie, donc à la troisième génération, dans la même famille d'intersexes. Mais on a aussi des tests de médecine qui datent même, j'en ai de 57, où on a obligé un homme à avorter trois fois jusqu'à 6-10. Basta, il y en a marre, cet enfant, je le porterai. Et ça, ça pose un véritable problème administratif, juridique, éthique, moral.
Par rapport à l'hétérosexualité, je dirais que qu'on soit intersexe ou pas, peu importe, mais quand on fait un parcours trans, si on veut réussir rapidement, il faut être hétérosexuel. Si on commence à essayer de nous voyer, d'avoir une forme d'hétérosexualité, quel que soit le sens de l'hétérosexualité, on en prend pour 4 fois plus de temps. Et d'ailleurs, c'est par rapport à l'atelier que j'ai eu ce matin, auquel j'ai participé ce matin avec le mot d'écrire. On en vient d'en faire un parcours trans, parce que les intersexes sont obligés de faire un parcours trans quand ils sont bien dans leur genre, et qu'ils veulent trouver un genre, non pas où ils se sentent bien, mais au moins où ils se sentent mieux. On est obligé de les rencontrer, de les raconter des mensonges pour faire ça le plus vite possible. Et c'est une obligation légale. Et c'est stupide, parce que le principe même de la psychiatrie, c'est justement dire qu'il faut qu'il y ait une relation de confiance entre le malade et le médecin. Et on raconte des mensonges pour aller le plus vite possible, parce qu'on sait que sinon, tu en dis, je suis pas hétéro, je suis pas hétéra non plus, je suis pas pénètre, je suis pas loin. Je suis assez humain. On en prend pour garder. C'est pour le conduit. C'est pour ça l'atelier, ça. Non, je t'invite. Non, sur l'identité intersexe et les discours intersexes, il y a de grandes différences entre notamment l'ICA, qui a maintenant un discours très médicalisant. L'intersexualité est une pathologie, et dans le cadre de cette pathologie, il ne peut y avoir d'autres orientations sexuelles que l'hétérosexualité d'un homme ou d'une femme, il faut normaliser. Tu as depuis longtemps en France, et tu as deux associations qui sont en train de se faire ou qui sont déjà créées. Il y a un représentant, mais je ne sais pas, il n'est pas venu, de cette association-là, de cette association-là, qui considère que l'intersexualité est une maladie et qui font des associations de malades et qui vont chercher leur financement auprès des médecins, auprès des laboratoires pharmaceutiques. Nous, l'OI, on est fondamentalement un mouvement féministe. Et à ce titre-là, on n'est pas du tout dans le même discours. Notre revendication, elle est, nous sommes oppressés, mais maintenant, nous prenons notre parole, nous allons parler pour nous, et c'est nous qui allons vous parler de nous, et non l'inverse, comme ça s'est toujours passé.
Je pense que les médecins interviennent à la médecine pour faire une opération, ça je comprends un peu la logique. Par contre, je comprends du moins évidemment que je sais qu'a priori il y a besoin d'un suivi assez important de partenaires au Nord-Pu.
Parce qu'il y a eu stérilisation, bien évidemment, il y a obligation d'hormonothérapie sur cette idée, vas-y. C'est clair, oui. Non, mais c'est le système hospitalier occidental qui fonctionne comme ça. Il faut savoir quand même que les chirurgiens aiment couper, ça c'est très clair, c'est leur métier, ils le font très bien, et ça rapporte énormément d'argent sur des patients qui ne vont pas se plaindre. Donc, on a remplacé l'opération des végétations des amygdales et des appendicites par la chirurgie intersexe. Toute l'histoire de la chirurgie moderne vient des essais d'endroits carrés sur les intersexes. Il ne faut pas oublier que toute la chirurgie moderne, aussi moderne qu'on la connaît, elle a pour origine l'intersexualité. Hein. Ça, c'est très très important. Donc, il y a un très lourd poids de la médicalisation du corps des intersexes. Après, il y a l'endocrinologue qui a toutes ces petites fioles et qui peut faire un petit peu ce qu'il veut et qui adore faire ça aussi. Il y a des enjeux commerciaux colossaux derrière et les laboratoires pharmaceutiques foutent énormément à ça, bien évidemment. Mais il y a aussi, après, des médecins, et notamment en particulier des endocrinologues, qui se trouvent face à des gens qui sont dans l'obligation de suivre, mais pour lesquels ils n'auraient pas fait ce choix-là. Et ça, c'est aussi l'une des grandes difficultés. Parce que dans le système de médecine actuel, tu as à la fois la médecine d'hôpital où les enfants sont assignés, et c'est jamais dans des hôpitaux, ou très rarement dans des hôpitaux publics, en général dans des hôpitaux publics, et tu as après la médecine de ville, et cette médecine de ville qui a ses capacités à s'opposer au reste des médecins qui est complètement fermé par l'ordre des médecins. Hein? Par exemple, un endocrinologue qui reçoit un intersexe qui a été féminisé et cet intersexe, là, j'ai dit à l'endocrinologue, moi, ça ne me convient pas, je veux être masculinisé. L'endocrinologue soit le fait en douce, soit est dans l'obligation de déclarer la personne et qu'elle aille auprès d'un psychiatre pour avoir un certificat médical comme quoi elle est malade mentale, transsexuelle, pour que l'endocrinologue ait le droit de lui donner les hormones qu'il réclame. Voilà. Mais il n'y a aucune étude sérieuse à long terme faite des effets des hormones sur les intersexes et les endocrinologues sont obligés de bricoler en permanence. Des réseaux, c'est bien dire, on a des gens avec qui on travaille en bonne intelligence et qui ne le diront jamais parce qu'ils prennent des risques importants par rapport à leur vie professionnelle. Alors, au départ, c'était ne pas entendre ce que nous disons en France et dire que ce sont des excités aux États-Unis. Et nous, on n'existait pas. Ensuite, ça a été reprendre tous nos travaux, les citer en nous faisant dire des choses qu'on n'a jamais dites et en y incluant ce qu'ils voulaient bien entendre. Maintenant, on en est à un troisième stade où pas les chirurgiens, pas les endocrinologues, mais le reste de l'équipe soignante, et particulièrement les psy, sont en demande de paroles intersexes, et ou à titre personnel, dans le cadre de leur équipe médicale, mais à titre personnel, nous appellent et demandent à nous rencontrer. Mais la fin des assignations ne viendra pas de la prise de conscience du corps médical, elle viendra bien évidemment du fait qu'à un moment donné, la sécurité sociale va s'apercevoir qu'il y a un coût faramineux d'assignation et de suivi médical et social de la personne intersexe du fait de ces mutilations-là, qui n'est absolument pas justifié et dira stop, on arrête.
Le corps médical va se trouver lui-même. Alors, je sais par expérience, je vais parler de son truc à un endocrinologue, il va se dire, même si tu reviens avec une petite partie de ce qui a fait sauver son dossier médical, les intersexes, de dire, waouh, comme ça, il va se dire, mais ça ne prouve rien. Le corps médical couvre toujours ce qu'a fait le corps médical il y a 30 ans ou 40 ans. Un médecin, c'est un homme de cœur. Un médecin, c'est un petit intelligent, mais il ne le dira jamais officiellement. Il le dira comme ça, dans un petit mot. Mais officiellement, il couvrira toujours ce qu'a fait 50 ans avant. Et ça vaut pas tout.
Pour l'ensemble des associations intersexes au monde, il y a un refus absolu de travailler avec les LGBT et il y a un refus absolu des LGBT de travailler avec les intersexes. Il n'y a que en France où ça se passe comme ça.
Commune. Les autres.
Par contre, en termes de convergence de lutte avec les lesbiennes, on travaille beaucoup avec les féministes, lesbiennes, mais c'est vrai qu'au quotidien, aux UH ou dans les associations, il y a peu de choses qui se font, et pourtant je pense qu'il y a plein de choses qui devraient se faire sur, justement, les revendications générales, mais aussi sur nos corps, parce qu'il y a deux catégories d'humains qui sont, dont le corps est hyper médicalisé, la femme et l'intersexe.
Vous êtes d'accord,
vous êtes dans la lesbienne, c'est vrai que c'est le droit de l'humain. Non, mais ça, aucun gars sera d'accord,
hein,
c'est clair. C'est la revendication de, mais pourquoi les trans et les intersexes se sont retrouvés dans la cicatrisation, parce que les gays ont revendiqué la décicatrisation des gays, plutôt que de revendiquer la décicatrisation des communautés de genre. Pourquoi on ne peut pas aller à la halte? Parce que les gays ont parlé d'homophobie au lieu de parler de discrimination de genre inscrite dans la Convention de Genève depuis 1952. Parce que les gays considèrent systématiquement que nous brouillons leur discours parce que c'est une façon de nous invisibiliser pour obtenir leurs propres revendications. Ils n'en ont rien à foutre, ils nous marchent sur la tête et ils avancent. Et à ce titre-là, ils nous font reculer. Mais j'en suis pas sûr. Mais non, il n'y a aucune logique là-dedans.
Quoi?
Mais attends, tu t'es marié 15 ans, c'est des gamins, quoi, faut t'arrêter tes conneries, ou t'as toujours été fermé, c'est vous qui êtes en train de faire en sorte que ça n'existe plus, c'est pas l'inverse, faut vous arrêter vos conneries un petit peu. Mais bien sûr que si, il est permis. Mais bien sûr que si. On a accès à la procréation médicalement assistée, on a accès à... Mais ils sont pas assez mariés. Ils étaient juridiquement un homme et une femme, on leur a refusé le mariage parce qu'ils sont tous les deux XY. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'humanité, on a pris en compte le gène pour dire c'est un homme ou c'est une femme d'un point de vue juridique.
Il est donc à 10h à 10h, et il sera donc demain matin à 10h, j'ai oublié de vous l'atelier.